Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va partir à la chasse. Ouais, ouais, c'est un peu le thème récurrent, car on va parler de Evolve, le shooter, le FPS multi asymétrique de 2K, et puis on va aussi parler du phénomène Monster Hunter 4 Ultimate. On a réussi à récupérer Yann François qui était perdu au fin fond des contrées à chasser des monstres 4 fois plus grands que lui, et puis on parlera aussi de Harold et de The Escapist qui vient d'arriver sur Xbox One. Et je commence, j'ai un peu spoilé, mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Yann François de 3 couleurs et de plein d'autres choses, dont le podcast ZQSD entre autres.
Bonjour Juan.
Bonjour François. Et Patrick Elia. Bonjour François. Non mais ça va pas. Non,
j'ai l'habitude.
Ouais, c'est vrai. Non mais moi, pas moi. et Patrick Elio du JDLI. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan.
On commence avec toi Yann, avec une interview dont les auditeurs ont parlé dans les forums par ailleurs.
Oui, et qui fait écho à une news que nos amis de JV ont raconté ici, ouais. Autour de Peter Molineux et son studio de développement. 22 Cans, qu'il avait fondé en 2012, je crois, avec la volonté de devenir indé. Et donc, il s'était lancé dans deux projets.
Jeux.
Voilà, 22 jeux avec 22 personnes, il me semble. Je crois que c'était ça aussi le but. Et il avait commencé avec Curiosity, le fameux jeu de cube sur l'iPad, et Godus, qui était un peu attendu comme la résurrection de Populous, donc le jeu qui avait rendu Molineux célèbre la première fois.
Le premier God Game.
Le premier God Game,
89, je crois.
Ouais. Et là, donc, il y a eu des nouvelles un peu... triste et inquiétante à propos de Godus, puisque le jeu avait été lancé en Kickstarter en 2012 et il avait amassé plus de 700 000 euros à l'époque. Il a connu un développement pour le moins chaotique. Et là, en février, Molineux, pour aller vite, annonçait qu'il n'allait pas tenir toutes les promesses de son Kickstarter, ouais. Et qu'en plus, 22 Cans devait se séparer de plusieurs de ses employés.
Donc, ils deviennent 7 Cans.
C'est ça.
Non, pardon.
Suite à cela, il y a un journaliste de Rock Paper Shotgun, John Walker, qui s'est mis en tête de l'interviewer. Et donc, il a publié son interview, qui est une conversation téléphonique de plus de 2 heures, je crois.
Toute la conversation. En fait.
Voilà, quasi intégralement. T'as l'impression d'être.
C'est plus une retranscription d'une conversation qu'une vraie interview.
C'est ça. T'as l'impression d'être RG lors d'une écoute téléphonique. Ouais. Vraiment, il a publié ça, brut.
Les bruits, les
réactions un peu outrées de Molineux, puisqu'il l'attaque, mais vraiment, d'entrée, Molineux, par une phrase, c'est « Est-ce que vous vous considérez comme un menteur pathologique ?» Et Molineux se laisse pas trop démonter, il essaie de répondre que ça a toujours été un créateur qui aimait, on va dire, médiatiquement poser plein d'espoir, de théories, il s'est vraiment toujours posé comme quelqu'un de visionnaire dans ses projets, quitte à ne pas tenir ses promesses théoriques, on va dire. Sauf que là, le journaliste, visiblement très énervé, a repris quasiment l'intégralité de tout ce que Molineux avait dit dans la presse par rapport à Gaudius. Toutes la notice en fait, explicative hein. Ouais. Du projet Gaudius sur Kickstarter avec tous les paliers de pledge que ça pouvait rapporter aux backers et tout ça. Et il le démonte à chaque fois. Bon, Molineux, au bout d'un moment, lui dit « Mais en fait, tu es en train d'en faire quelque chose de personnel, d'émotionnel. La discussion vire parfois aux échanges à la joute verbale. Ça devient très, très tendu. Et ça devient tellement tendu que Molineux annonce de manière plus ou moins officielle qu'il arrêtera tout simplement de communiquer à la presse autour de ces jeux, puisque non seulement il y a
Gaudius... À cause d'un coup de fil. À cause d'une discussion. Ouais, après, il l'a dit aussi dans le cadre de ce coup de fil, donc on n'est pas obligé de le croire sur parole.
De toute façon,
croire Peter Molineux sur parole, c'est dommage.
C'est ça, et puis Molineux n'est pas dupe, il a l'habitude de se faire attaquer constamment. Il y a même un compte Twitter fake Peter Molineux.
Avec qui il s'entend bien. Hein.
Voilà. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire malmener, mais qui le cherche aussi. Mais là, oui, tu sens que... À la fois, il y a quelqu'un en face de lui qui lui fait un procès de sa personnalité, mais aussi un procès de son engagement sur Kickstarter. Là, c'est plus des promesses que tu fais à un éditeur et auquel tu peux prendre du retard et tout ça. T'es face à une sorte de jury populaire.
C'est ça, en fait, ils sont un peu le porte-parole des backers, qui ont mis de l'argent sur la table pour supporter le projet.
Il incarne une espèce de voix populaire, du consommateur qui, au bout de 2 ans et demi, non seulement n'a pas accès à un jeu terminé, mais qui en plus annonce qu'il va abandonner ses promesses, à savoir le multiplayer, le coopératif. Il y a plein d'autres. En plus, il y a une version iOS et Android qui est sortie entre temps, version freemium, qui a été extrêmement critiquée parce qu'effectivement, c'est limite du pay to win. Il sait qu'il n'est pas en odeur de sainteté, mais il profite, je pense, de cette attaque-là, qui est quand même assez dure. Enfin, c'est 1h30 condensée. Moi, j'ai mis une demi-heure à lire l'article. Il est très long. Et des fois, tu as presque pitié pour Molineux, tellement il s'en prend plein la tête. Enfin, il se prend 20 ans de carrière dans la tête, en fait. Et je pense qu'il profite de cette occasion-là pour dire... on est à une époque où c'est plus la même façon de communiquer. J'ai décidé de ne plus m'avancer parce que effectivement, il dit moi je ne suis qu'humain, je suis perfectible. Effectivement, je fais des promesses que je tiens pas, mais c'est parce qu'au moment où je les fais, c'est pas de la langue de bois, c'est j'y crois. Je pense que mon équipe et moi-même allons le faire, aller au bout de nos promesses. Mais le jeu vidéo, c'est un boulot, blablabla, et ça vire un peu une espèce de t'as l'impression d'avoir un gamin qui est jugé par tous ses profs, par son conseil de classe, et qui fond en larmes parce que il dit mais je suis qu'humain et le jeu vidéo, je passe 16 heures dessus à travailler dessus des fois la technique n'est pas là, des fois le budget n'est pas là.
Je pense c'est pas un méchant Molineux en plus. Je pense vraiment qu'il croit à chaque fois aux promesses qu'il fait. Je pense qu'il pense sincèrement qu'il va atteindre les objectifs sur Fable, tout ce qu'il promettait à chaque fois. Je pense pas que c'est un méchant. Juste que...
Moi non plus, mais c'est quand même un des premiers développeurs à s'être mis dans une position de hauteur avec un A majuscule. Il a vraiment théorisé, mais il s'est théorisé tout seul. C'est-à-dire que la presse n'a même pas eu le temps de le faire, comme elle a pu le faire avec un Weda ou je ne sais pas, avec un Ansel ou un Chahi.
C'est par lui-même, par ses discours qu'il est
monté. C'est une autopromotion de l'auteur et tu as l'impression que finalement les limites ont été trouvées grâce à Kickstarter. Parce que la façon de faire financer un projet, de communiquer dessus et surtout d'assumer le fait qu'il y aura des features ou pas à des gens
après,
qui donnent de l'argent, qui sont plus des organismes privés comme des éditeurs, tout ça change et que cette figure de l'auteur un peu visionnaire, un peu foufou, qui essaie de voir dans l'avenir les progrès du jeu vidéo et tout ça, que ça a plus trop sa place aujourd'hui, quoi. Et
en même temps,
l'impression qu'il s'en rend compte un peu.
En même temps, soyons un peu sérieux. On est
je ne sais pas quand a été lancé le Kickstarter de Godus, en 2012 ou quelque chose dans le genre.
Ouais.
Et 2012, Peter Molyneux, on savait déjà. Et le crowdfunding, on achète des promesses dans le crowdfunding. Hein. On achète que ça d'ailleurs, on achète principalement des promesses. Et on voit les gens, ils ont acheté la promesse de Peter Molyneux. Et avant, il avait déjà promis de faire pousser des plantes dans le premier Fable.
Milo voilà, aussi, donc le projet Kinect.
Bah ouais, il y a un moment où les gars assumaient. Hein, vous avez mis des sous sur un projet de Peter Molyneux. Moi, j'aurais pas fait ça. Bon, bah c'est non, mais je veux pas le défendre en disant ça. Mais bon, bref, interview très intéressante à lire donc sur Rock Paper Shotgun, le site britannique de jeux vidéo sur PC principalement. Patrick, de ton côté. Ouais. Chiffres côté...
Côté Nintendo en fait, Nintendo. Qui publiait ses résultats du troisième trimestre fiscal et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'occasion pour Satoru Iwata de faire une conférence pour commenter ses chiffres et on glane toujours plein d'infos au cours de ces conférences.
C'est un Nintendo Direct ou c'est...
Non, c'était vraiment une conférence je crois aux financiers en fait, vraiment un débriefing des chiffres, donc c'est intéressant, c'est que ça prenait place quasiment dans la fenêtre de sortie de la nouvelle 3DS, donc alors moi j'ai noté quelques chiffres en passant, donc le bilan des ventes sur la 3DS en général depuis 2011 et le lancement de la console, on a passé le cap des 50 millions de bécanes vendues. Et puis on a des premiers chiffres sur donc les ventes de la New 3DS qui est sortie il y a quelques jours à peine en Europe, puisque Iwata parlait de 160 000 machines vendues en Europe et 180 000 aux États-Unis. Donc c'est plutôt une belle performance, même si on sait toujours que les acheteurs potentiels de la console ont évité d'acheter le modèle 3DS classique avant l'arrivée de la nouvelle. Donc ils attendaient un petit peu de passer à la nouvelle. Donc il y a toujours comme ça un boost au lancement. Il faudra voir si ça se maintient sur la durée. Et bon, en tout cas, on avait parlé de la console la semaine dernière ici même. Parmi les autres infos notables, des infos qui sont assez intéressantes sur donc deux jeux qui sont étroitement liés au lancement de la console, c'est le Majora's Mask et Monster Hunter 4 Ultimate, dont Yann va nous parler tout à l'heure. Donc Nintendo ne nous a pas donné de chiffres. En revanche, il a expliqué que les ventes était supérieur au lancement par rapport au précédent titre de chacun des deux, donc le Zelda Link Between Worlds et le Monster Hunter 3 sur 3DS. Donc c'est-à-dire que ça part
mieux. Le Majora's Mask est mieux parti.
Alors oui, c'est plutôt intéressant parce que c'est un titre qu'on...
Ce qui était bien le précédent. Hein,
exactement. Donc c'était le Link Between Worlds qui reprenait le look de la Super NES, qui était un très bon jeu aussi. Et en tout cas, c'est marrant de voir que voilà, Majora's Mask part bien et puis que Monster Hunter visiblement commence peut-être à faire son tour en Europe. Et ça, c'est dans les pays occidentaux. Ça,
été un peu confidentiel.
Ça a toujours été compliqué. Il y avait un plateau qui était difficile à passer, sorti des hardcore gamers RPG japonais. Et là, visiblement, ça commence à décoller. Donc ça, on verra aussi. Et puis on va en parler tout à l'heure. L'autre chiffre clé, ce sont les 5 700 000 Amiibo vendus sur l'année 2014. Donc ça, c'est le gros carton Nintendo qu'on n'a pas forcément vu venir.
5 millions.
7 à fin 2014. Et ça continue de plus belle. Là, il y a les nouvelles vagues qui arrivent.
C'est bien les trucs qui le vendent 15 euros et qui doivent coûter 50 centimes à produire.
Dont on ne comprend pas.
Et qui marchent très très bien. Et je crois qu'en France, on doit être à 250 000 pièces en France, à peu près, dans ces eaux-là. Et donc, c'est un carton plein. Et alors ça va toucher les rétro-gamers. On ne va pas les citer autour du plateau. Mais on vient d'apprendre que les Amiibo vont avoir de nouvelles fonctions. Évidemment, ils vont être rendus compatibles avec davantage de jeux et que donc les possesseurs de Wii U vont bientôt pouvoir débloquer des jeux NES ou Super NES via les figurines. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais en tout cas c'est très malin. C'est malin parce que ça joue évidemment sur tout le côté nostalgique, sur tout le
fétichisme. On aura un jeu gratos en fait.
Des mini-jeux ou des jeux. Pour l'instant on n'a pas plus de détails, mais en tout cas ça va continuer à bien marcher à mon avis. Et puis news en passant, moi qui m'a... Ah, j'ai bondi en voyant
ça passer. L'Oculus Rift.
Non, pas vraiment. Non, un précurseur de l'Oculus Rift. On remonte dans les années 30. Allez, on y va. Ouais, on n'aime plus les années 80, les années 30. On va parler du Viewmaster. Alors, le Viewmaster, rappelez-vous. Dans les années 80, on a tous eu, je pense, autour de cette table ou quasiment, peut-être pas, non, si, quand même.
Lunettes rouges
avec des disques cartonnés qu'on enclenchait dedans. On avait des images en 3D et c'était fabuleux. Enfin, moi, j'en avais eu une à l'époque. J'avais eu des trucs sur le trou noir, le fameux film de Disney mythique.
Je t'ai déjà dit que j'avais eu le vinyle du trou noir.
Et bien, je l'ai. L'histoire dessus, je l'ai retrouvé. C'est fabuleux. Mais le trou noir est un grand film oublié qu'il faut en parler dès qu'on peut.
On va jamais y arriver.
Viewmaster, voilà, donc c'était devenu un objet un peu de collectionneur. Moi, je sais que j'en avais racheté un à San Francisco parce que il y a encore des endroits, dans les endroits touristiques, on peut acheter la bécane qui est compatible avec les anciennes galettes. Donc, je vais pas vous raconter ma vie, mais on en trouve encore sur eBay. La nouvelle du jour, c'est que le Viewmaster revient. Et alors ça revient sous une forme un peu différente, puisque en fait ça appartient maintenant à Mattel, la marque. Et Google et Mattel annoncent aujourd'hui que ça va revenir sous forme d'une application, d'un accessoire pour les bécanes Android, pour les smartphones Android. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça va s'enclencher dedans et on aura accès donc à des images 3D via une appli dédiée. Voilà. Donc, alors, mais oui, je sais. Non, moi, je suis d'accord. Moi, ce qui me fait rêver, ce sont les petites tablettes, les petits disques cartonnés qu'on trouve encore sur eBay, hein, d'ailleurs, qui montent. Hein, d'ailleurs, mais bon, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Hein. Donc, on va enclencher son téléphone dedans. Voilà. Par contre, ce ne sera pas compatible, d'après ce que j'ai compris.
Il y aura
avec,
plus le bruit, et oui, le bruit, le clic-clac. Clac, clac,
et le rendu était génial. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Il y avait vraiment un effet de 3D qui était assez. Puis il y avait les petites histoires, parce qu'en face, au milieu, on avait un petit trou avec le résumé de l'histoire. Enfin bon, bref.
On va y aller. Hein.
Voilà, donc
on
c'est plus. Donc, pour finir, $30 environ d'ici courant de l'année.
C'est cool. Voilà. D'accord. Le Viewmaster sur Android.
Voilà, donc à voir. Mais bon, faut pas oublier le Viewmaster original qui.
Le com des coms de la semaine dernière, on commence avec Seb22 qui revient sur Majora's Mask. Le développement de Majora est en effet plein de rebondissements puisque Aonuma, dungeon designer sur Ocarina of Time, passe réalisateur de ce Majora. Or, il faut savoir qu'à la base, le projet Majora était une version légèrement remaniée de Ocarina of Time. Pas très motivé, Aonuma a carrément été voir Miyamoto qui lui tint à peu près ce langage. Dit Miyamoto, j'en ai un peu marre de mon projet, je peux faire autre chose. Oh, ok. Ejikun, mais tu as 18 mois pour le sortir. C'est pour ça que les assets, les personnages, la technique, le décor sont très similaires à ceux que de Ocarina of Time, mais Aonuma a réussi à imprimer sa patte personnelle dans Majora et le projet initial Ura Zelda a été achevé pour être ensuite Ocarina of Time Master Quest qu'on retrouve à tel quel sur GameCube dans un disque bonus.
La compile, ouais, avec les Zelda regroupés.
Donc le concept de course après le temps et donc d'arrivée imminente de l'apocalypse vient du fait qu'il était lui-même pressuré par le temps, en fait.
Je crois qu'il est venu avec l'idée, mais il avait que 18 mois pour le faire, donc c'est pour ça qu'on
s'est aidé à
repris les moteurs et
à rendre aussi mélancolique pression du temps.
Et enfin, alors il y a Elistian qui est donc nouveau sur les forums de Science on Joue, bienvenue, et qui revient sur à propos de Darkest Dungeon. Comme vous l'avez souligné, les premières minutes sont un peu velues, ça manque d'un petit tutoriel et de quelques bulles d'aide, notamment pour expliquer l'effet des caractéristiques, l'importance des éléments, le buste, le portrait, parchemin et écu pour les améliorations des services, les informations sur les donjons, le fonctionnement et l'intérêt des bâtiments. Il manque quelques éléments d'interface comme la possibilité de comparer deux héros, d'avoir une vue d'ensemble de l'équipe qui s'apprête à partir pour un donjon, histoire de pouvoir identifier d'un coup d'œil qu'on a oublié de prendre un healer. C'est du vécu. À part cela, ce jeu est vraiment très efficace et pour peu qu'on aime la gestion de nombreux paramètres et la stratégie dans des combats au tour par tour, c'est un must-have. Il faut gérer un grand nombre de héros, les faire leveler et les préparer les remplaçants des futurs morts, les bichonner pour qu'ils décompressent ou se soignent de leurs innombrables maladies mentales, plus ou moins invalidantes, s'occuper de leurs équipements, de leurs caractéristiques. Il faut aussi savoir combiner ces héros pour faire des équipes puissantes tout en ayant toujours une équipe B disponible lorsque les titulaires sont fous ou morts. En combat, il faut s'occuper de la position des héros et de l'enchaînement optimum de leurs sorts pour immobiliser l'ennemi, le marquer pour des effets dévastateurs le coup suivant, le faire saigner, débuffer, etc. etc. Je conseille donc vivement de dépasser les 11 minutes pour profiter ensuite des nombreuses heures de plaisir avec ce Darkest Dungeon que moi j'ai commencé et j'avoue que c'est un peu rude au départ. Hein. J'avais
aride,
pas commencé.
Ah ouais, là,
non, c'est bien hein, et c'est beau, c'est bien fait. Il y a plein de concepts super intéressants sur le placement des personnages, là où ils tapent en fonction de là où ils sont et leur pouvoir et tout ça. Et la santé mentale, mais c'est aride. Enfin, c'est vraiment compliqué et surtout c'est pas facile. C'est pas facile, on s'en prend plein la tête quand même très très vite. Voilà. Voilà, donc ça c'était le com des coms de la semaine dernière et donc c'est parti, on va à la chasse pour deux jeux pas forcément identiques mais qui partent sur le même principe, les héros doivent chasser des grosses bestioles et on va commencer avec Evolve.
This is the greatest team of hunters ever assembled. We were hired to protect the most valuable colony in the far arm. Or at least it was, until these things showed up. They're big and getting bigger, and they just had half the planet for breakfast. This is no longer a wildlife problem. It's a full-scale evacuation. Gear up. We're going in.
is over two stories tall, heavily armored, and real ugly. They can breathe fire.
On va pas le laisser parler trop longtemps, ce monsieur, parce que je sens très très excité. Il est très très motivé par son discours. Mais on a bien compris, les meilleurs, le meilleur groupe de chasseurs jamais réunis. Et donc voilà, Evolve, nouveau titre proposé par, enfin nouveau, il y a quelques semaines déjà, mais lancé par Touquet, annoncé depuis belle lurette. Ils ont fait quand même pas mal de com dessus, parce qu'on part du principe, c'est le nouveau FPS collaboratif et asymétrique, parce que t'en as un joueur qui contrôle un sacré bestiau qui est quand même assez terrifiant, et quatre joueurs qui doivent collaborer pour l'abattre, sachant que la partie ne promet de ne pas être facile, même s'il y a peut-être des problèmes d'équilibrage, mais dont Yann va nous parler, parce que nous, grosse flémasse qu'on est, on n'y a pas joué. C'est surtout que moi j'ai un problème avec les FPS comme ça, je suis pas très très bon, mais bon, c'est un souci.
Mais non. Mais tu seras bienvenu.
Mais si.
Voyons.
D'accord.
Faut essayer. Il faut aussi rappeler que Evolve est le nouveau jeu du studio Turtle Rock, qui ne sont autres que les créateurs de Left 4 Dead.
Oui.
Donc, qui est vraiment un titre culte pour justement tous les amateurs de FPS coopératif, comme tu as dit, parce qu'ils avaient vraiment inventé un concept à partir d'une coopération à quatre joueurs qui se faisait assaillir par des hordes de zombies. Et du coup, c'est vraiment un studio qui est porté vers l'évolution, comme le titre du jeu l'indique, d'un genre. Et c'est à la fois important de le dire et en même temps...
Parce que c'était pas Valve qui avait fait Left 4 Dead.
Oui. Alors, c'était compliqué.
Non,
en
mais
fait.
Je reviens, mais c'est oui.
Le premier Left 4 Dead a été développé par Turtle Rock.
D'accord.
En fait, Valve était juste éditeur. Et c'est à partir du deuxième où il y a eu, je crois, de sacrées complications, et Turtle Rock a été mis un peu de côté, et ils n'ont fait qu'un DLC.
D'accord.
Et du coup, maintenant, ils sont partis. Ils devaient être, normalement, le Evolve devait être financé par THQ, et il a été rattrapé in extremis à la mort de l'éditeur par Touquet, qui lui a laissé un an et demi, deux ans pour finir le jeu, qui a été reporté en plus après 6 mois de décalage. Et donc, voilà, on se retrouve avec un jeu qui veut vraiment apporter quelque chose de révolutionnaire au jeu multijoueur, tout simplement. Mais qui se frotte quand même à quelque chose qui a été un peu établi avec le jeu multijoueur. C'est-à-dire que maintenant, le jeu multijoueur, le principe, c'est un peu le principe d'Internet. C'est l'anonymat, c'est la démocratie, c'est le fait de pouvoir arriver sur une partie en drop-in, drop-out, comme on dit, de pouvoir jouer avec des parfaits inconnus, de pouvoir rentrer dans un gameplay de plein fouet et sans vraiment... À part, bien sûr, il y a un niveau de progression, de skill et tout ça. Mais voilà, c'est ce qui fait un peu l'identité du jeu multijoueur aujourd'hui. Evolve n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout un jeu démocratique, c'est un jeu presque élitiste qui mise sur non seulement la coopération, mais surtout l'extrême communication entre ses joueurs. C'est-à-dire que
tu peux pas trop
y jouer. Voilà, si t'as pas de casque micro et si t'es pas dans une dynamique.
Je déteste parler dans le vide quand je joue. J'ai déjà essayé. Hein. Je peux pas.
Tu risques d'avoir effectivement un problème avec le jeu, à moins que tu joues le monstre tout le temps.
Là,
t'es tout seul avec toi-même. Voilà, tu parles avec toi-même peut-être, mais t'es dans une dynamique solo de survie. Parce que l'asymétrie se joue sur le fait que le monstre doit se cacher des chasseurs pendant un temps. Il est sur une grosse map qui a sa propre faune et flore dont il doit se nourrir pour remplir une barre et passer des paliers d'évolution. Chaque palier d'évolution le rend non seulement plus fort et résistant, mais débloque des nouveaux pouvoirs.
Donc le but en face des soldats, c'est de tuer le monstre avant qu'il évolue.
C'est de le repérer et de le tuer. Puisque si le monstre évolue à son dernier stade, le troisième, il peut aller détruire une infrastructure cible de la map. Et à ce moment-là, c'est le dernier moment pour les chasseurs de le tuer. Et entre-temps, les chasseurs, ce qui est important, c'est que chaque groupe est constitué de 4 classes exclusives. Et on ne peut pas choisir... On ne peut pas avoir deux rôles différents. C'est-à-dire que tu as l'assaut, le soutien, le médic et le trappeur, pour faire très vite. Chacun a vraiment ses spécialités et sa complémentarité. C'est-à-dire que tout le monde est utile. Et un groupe qui est amputé d'un chasseur, parce qu'ils peuvent se faire tuer par le monstre et doit attendre un certain temps pour revenir, le groupe amputé d'un membre est vraiment, vraiment handicapé face au monstre. Parce que autant le healer peut soigner, autant l'assaut fait vraiment des dégâts, le soutien apporte... un soutien logistique par des barrages d'artillerie ou du bouclier et tout ça. Et le trappeur est celui qui aide le groupe à trouver la trace du monstre et surtout à l'enfermer sous une espèce de dôme temporaire pour limiter ses mouvements.
Mais c'est fun de jouer le monstre ou...
Alors, c'est là qu'est toute la problématique du jeu. À vrai dire, c'est le fun. Parce que Evolve, en fait, quand tu joues le monstre et que tu es doué, tu te fais pas voir du groupe.
Ouais, donc il te cache, tu évolues dans
donc,
ton coin.
Quand t'es le monstre, t'as une espèce de satisfaction absolument immense à prendre les autres pour des cons, à les mener dans des pièges, parce que dès que tu cours, tu laisses des traces, mais dès que tu t'accroupis, tu n'en mets pas. Et donc tu peux créer des fausses tactiques à marcher d'un côté et puis revenir sur tes pas. Voilà. Et puis t'as des oiseaux qui peuvent s'effrayer à ton passage et qui marquent ta présence.
Alors je vais peut-être te spoiler ta phrase suivante, mais jouer contre un monstre qui est bon.
C'est l'expérience la plus chiante au monde.
C'est ça. C'est-à-dire, tu passes ta partie à ne rien voir, en fait.
C'est un peu ça le problème. C'est que, effectivement, j'ai joué beaucoup avec les gens de JV, qui se sont ennuyés comme c'est pas permis, puisque en face, il y avait un monstre qui était très, très doué, et eux commençaient à jouer. Et effectivement, tu passes vraiment, ça a duré une demi-heure, à tourner en rond, à essayer de voir les signes de l'environnement s'activer et tout cela. Et le truc, c'est, t'as l'impression que le jeu est victime de son propre talent. Parce que, en soi, le gameplay est non seulement original, mais il est super bien pensé. Il est, enfin, toute la partie de l'environnement, tous les pouvoirs des héros, tout l'équilibrage entre chaque classe est tellement bien pensé. En plus, t'as 16 cartes qui, même si elles manquent d'identité, ont un level design très en verticalité, c'est très très grand. Enfin, vraiment, il y a un côté... hyper belle machine, mais le fait est que...
Il y a un défaut de conception, même initial, en fait.
Malgré lui. Ouais.
C'est-à-dire que baser un FPS multi, même qu'il soit collaboratif ou tout ça, sur de l'infiltration, il y a un souci, parce que si l'infiltré, enfin, la personne qui est censée être discrète l'est vraiment, ça dure combien une session ?
Ça peut vraiment varier de 5 à 40 minutes.
Tu passes 40 minutes à rien voir.
Et il n'y a pas des événements contextuels qui peuvent mettre le monstre en danger ou remettre un peu les choses.
Si. Non seulement il peut laisser des traces derrière lui que le chien du trappeur, parce qu'il y a certaines classes de trappeurs qui ont un chien extraterrestre qui peuvent renifler sa trace. Mais par exemple, si un monstre passe trop près d'un groupe d'oiseaux, il peut les effrayer. Et à ce moment-là, directement, le groupe de chasseurs le voit s'imprimer sur leur écran. Donc, il y a plein de moyens de le repérer, le monstre. Et c'est là où, moi, je veux en venir, c'est que c'est vraiment au bout de 10 heures de jeu, quand tu commences à jouer avec des gens qui sont vraiment d'un niveau très très haut, qui sont très organisés, qui sont vraiment dans la notion de communication, dans la notion d'entraide et de complémentarité. Là, j'ai vraiment vécu des grandes parties. C'est-à-dire que tu te racontes des histoires, t'es dans un groupe de chasseurs et tu te parles, et c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans un Predator, quoi, de repérer la moindre...
Je pense que initialement c'était ça, c'était revivre Predator, mais quelque part, c'est vrai que ça me semble un petit peu étonnant. Par exemple, moi, n'étant pas forcément très très doué, j'ai joué à Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, je me suis bien amusé et tout ça, mais parce que Left 4 Dead,
t'as un côté immédiat.
Ouais, et puis tu zigouilles du zombie, tu t'ennuies pas, enfin voilà, tu t'ennuies vraiment jamais dans Left 4 Dead.
Mais t'as presque pas le choix, en fait, dans Left 4 Dead, tellement t'es soumis à une pression, t'es dans un train fantôme. C'est, Left 4 Dead, c'est vraiment du linéaire, c'est que tu traverses un niveau en ligne droite. Le principe d'Evolve est au contraire de miser sur le monde ouvert.
Est-ce qu'ils n'ont pas eu une trop bonne idée, en fait ?
Peut-être, je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Et surtout, il y a un gros problème avec le jeu, c'est qu'il t'offre une liberté très limitée dans le choix de partie. C'est-à-dire que quand tu veux te connecter à une partie sans pote, machin, juste rentrer dans le jeu, il t'impose le mode chasse, qui est le mode que je t'ai raconté. Mais sinon, le jeu a quatre autres modes qui sont soit un mode avec des œufs que le monstre doit défendre contre l'assaut des chasseurs, soit c'est l'inverse, c'est des chasseurs chasseurs qui doivent protéger des gens, soit c'est le monstre qui doit attaquer une base à la façon d'un MOBA. Donc là, effectivement, t'es plus dans la recherche et la traque, puisqu'à un moment, l'action est là et elle est directe. Le problème, c'est que ces modes-là ne sont accessibles qu'aux gens qui créent des parties et invitent des amis à cette partie-là. C'est-à-dire que, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tout le potentiel du jeu, jouissif, spectaculaire, tactique, reste limité au fait que, pour en profiter, tu dois connaître des gens et, faire des sessions privées. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, ils ont essayé de contourner, le problème en créant un mode scénarisé, qui est le mode évacuation, qui est en fait 5 missions d'affilée, où ils choisissent un mode de jeu par carte, avec des répercussions scénaristiques selon la victoire ou l'échec de chaque camp va entraîner des événements scriptés sur la carte suivante. Soit c'est le monstre qui aura un acolyte en plus, soit c'est les chasseurs qui auront des téléporteurs et tout ça. Ça, c'est vachement bien pensé. C'est une super idée. Le problème, c'est que ça t'est imposé dans un truc qui n'est pas libertaire dans la création de parties.
Et là, mais le souci aussi, c'est que sur tous les jeux, côté jeu en multi, y a un problème de durée de vie aussi. C'est-à-dire que le jeu en multi, c'est là où c'est nécessaire de durer 6 mois, un an et demi.
Et là, le gimmick du monstre.
Parce que
et...
Left 4 Dead 2, il y a encore des gens qui jouent à Left 4 Dead 2. Je parle pas des Call of Duty et tout ça qui ont une durée de vie jusqu'au prochain numéro. Et c'est ça le cœur du multi. C'est-à-dire que ça doit être des jeux qui dur. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce potentiel-là.
Il y en a quand même un dans le simple fait que tu commences pour chaque classe avec un seul personnage et t'as 3 personnages par classe, chacun ayant son armement différent et donc c'est une possibilité tactique différente. Donc déjà, pour les débloquer, faut compter une bonne dizaine d'heures de jeu, hein, parce que c'est avec chaque personnage, il faut établir tant de points de dégâts, enfin bref, je vais pas aller dans les détails, mais ça prend du temps de débloquer les personnages. Avec le monstre, c'est exactement pareil. C'est en étant bon avec un monstre que tu te donnes la chance de débloquer le suivant. T'en as 3 pour l'instant, t'en auras un 4e bientôt.
Que multi, en fait.
Tu as un mode solo. Tu as un mode solo où tu peux jouer avec des bots, mais c'est très vite limité par leur IA. C'est un très bon moyen de s'entraîner. Là, il n'y a rien à dire, mais c'est un jeu qui est clairement pensé pour le multi. Ouais.
Et Evolve.
Moi, je pense que c'est quand même une expérience qui vaut le coup d'être jouée et qui vaut le coup d'exister. Après, comme tu dis, c'est le temps qui parlera et je pense pas qu'il parlera en sa faveur. Il va avoir son groupe de
ils vont être 5. Ils vont être 5.
Mais c'est marrant parce que le gimmick du monstre avec donc le côté asymétrique, enfin, c'est un nouveau gimmick comme on avait eu Titanfall il y a quelques mois qui jouait sur le côté robot avec la cassure dans les combats. Et finalement, Titanfall aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore une grosse communauté dessus. Hein, je suis pas sûr que.
Non, il y en a clairement pas une grosse communauté. Le truc, c'est que Titanfall.
Je pense que les gens qui ont des mitraillettes en bas de leur écran et qui jouent en vue subjective, ils veulent du Call of Duty.
Oui, voilà. c'est un peu.
Et du capture the flag et voilà, ça leur suffit, c'est ça. Je limite les gens,
testez-le quand même.
Oui, il faut jeter un œil à cette Evolve côté Touquet, donc la chasse aux monstres. Et ben on va rester du côté de la chasse aux monstres avec un des deux jeux qui a accompagné le sortie de la New 3DS. On a parlé de Zelda Majora's Mask la semaine dernière et évidemment, le second, c'est Monster Hunter 4 Ultimate. Énorme phénomène au Japon qui commence, Patrick en a parlé tout à l'heure, qui commence à prendre dans le reste du monde. Monster Hunter, c'est le jeu, la série qui avait sauvé la PSP à l'époque où ça vivotait et bim, Monster Hunter, ça fait vraiment vendre la console. Ils sont passés côté Nintendo, ils sont passés à l'ennemi et ça marche, c'est-à-dire que ça ça fait aussi vendre des consoles. Patrick, t'es pas un spécialiste du Monster Hunter,
non,
mais tu as eu la curiosité d'essayer.
Curiosité, et puis bah, j'ai passé quelques petites poignées d'heures, parce que bon, j'étais sur Majora's en même temps, donc voilà, il a fallu que je... mais ouais, moi j'ai un bon... Je pense
sachant qu'une poignée d'heures, ça veut dire que tu as environ fait 0,03% du jeu. Hein, on est
ouais, là. je pense que Yann va mieux en parler que moi, mais je pense que c'est un puits quand on se lance dans Monster Hunter. Non, moi, en quelques mots comme ça, bah, je pense que j'ai plutôt un terrain favorable. Bah, je trouve que c'est un univers que je trouve plutôt sympa. Et moi, j'ai tout de suite noté des différences par rapport aux 3 qui étaient sortis donc, sur 3DS et sur Wii U.
À la base, il est sorti sur Wii.
Sur Wii. Ouais, je vois qu'on a un puriste autour de la table, c'est très bien. Et moi, j'ai tout de suite noté, en tout cas sur la New 3DS, c'est vrai qu'on a tout de suite une finesse de réalisation qui change. Enfin, on sent qu'il y a un cap technique, et c'est important sur un jeu comme ça, parce qu'on sait que Monster Hunter, ça n'a jamais été une tuerie au niveau de la réalisation. Et là, je trouve que sur celui-ci, on a une finesse du graphisme, on a une 3D, on sent que le jeu a été pensé, à mon avis, avec déjà la New 3DS en tête. Le gameplay utilise aussi bien le petit stick droit pour jouer avec la caméra, et voilà, moi je sens le potentiel avec les 2-3 heures que j'ai passé dessus. Je sens qu'il y a un univers avec une foison de missions qu'on lance. Alors c'est vrai que c'est un univers très particulier, très japonais en fait, dans l'esprit, dans la façon de mettre en scène, etc. Mais c'est addictif. Enfin, je trouve que tu parlais tout à l'heure de Evolve. C'est marrant. C'est vrai que c'est étonnant qu'on en parle en même temps. Mais j'ai la sensation que sur Monster Hunter, c'est encore un cran au-dessus en termes de sensation de partir comme ça à la chasse d'une créature qui se balade sur un terrain de jeu où il faut un certain temps pour la retrouver. Et puis, évidemment, on se bat contre des colosses. Et c'est là que le multijoueur, visiblement, c'est un des gros points forts de ce 4 en Europe. C'est qu'il permet enfin le jeu en ligne via Internet, en fait, sur sa 3DS. Et ça on n'avait pas encore eu ça en Europe jusqu'à aujourd'hui, et ça ouvre complètement. On a l'impression que le jeu se lance quasiment aujourd'hui, Monster Hunter en Europe, parce que c'est le béaba du jeu, c'est de pouvoir jouer en ligne, comme tu disais, sur Evolve, voilà, de se retrouver avec ses potes et de se faire des communautés et de partir sur des missions où on va s'entraider. Et je crois même qu'on peut jouer un peu en. Il me semble, sur Monster Hunter, on doit pouvoir continuer à faire des missions de son groupe tout seul, ou il me semble. Et donc, ça, c'est super important de se créer ces communautés de potes et de pouvoir jouer en ligne et plus seulement en local. Et ça, c'est. Voilà, je pense que ça inscrit vraiment le jeu dans une vraie update, à la fois graphique et dans le gameplay. Et on a vraiment l'impression que c'est une sorte de maturité pour Monster Hunter. Et ça va peut-être, du coup, être l'épisode de la reconnaissance et du carton en Europe.
Oui, en tout cas, je le souhaite. Hein. C'est vrai que... on a l'impression, comme tu dis, que c'est l'épisode de la maturité, mais aussi par le fait qu'en France, on a été... privé de nombreux épisodes, parce que au Japon, non seulement c'est un million seller, mais c'est une saga qui compte une vingtaine de jeux. Par exemple, le 4 Ultimate aujourd'hui, et la version améliorée du 4 qui n'est jamais sortie en France, c'est uniquement au Japon.
Donc on a tout de suite une version updatée, en fait.
Updatée, pensée un peu mieux optimisée pour la New 3DS et surtout augmentée d'une quinzaine de monstres. Mmh. Au Japon, t'as même un MMO, Monster Hunter, vraiment. Oui, Donc, je pense que c'est l'épisode le plus séduisant pour le grand public.
Il y a plus de chances
déjà parce que, comme tu as dit, techniquement, la New 3DS fait un peu un miracle. Non seulement le jeu est joli, mais le choix des couleurs est très très beau.
Plein de détails, hyper détaillés, je trouve, les visages.
Et surtout d'une fluidité, mais parfaite, même en multijoueur. Alors qu'un Smash Bros pêchait là-dessus, je trouvais, sur 3DS. Là, c'est vraiment hallucinant. Bon, j'ai pas joué sur les anciennes. Mais
Yann, explique-moi pourquoi je dois jouer à Monster Hunter.
Ah non, mais toi,
Hunter.
Non.
Non, mais
non,
si,
mais
j'ai
pas
incité
pour
toi. Pourquoi? Non, mais c'est quoi ça?
Parce que tu n'es pas un drogué.
Mais si, alors je suis très très sensible à ce genre.
Pour moi, je pense que c'est la richesse. Enfin, on sent quand on lance le jeu. Moi, j'ai à peine gratté le début, mais on sent qu'il y a une richesse monumentale.
En fait, si, t'es un drogué. Enfin, si. En fait... Non, j'ai le rapport à Monster Hunter que t'as le rapport à Hearthstone.
Voilà.
C'est-à-dire un rapport pulsionnel, presque, compulsif.
Attention, Erwan, fais gaffe, parce que si t'en as deux comme ça, fais gaffe.
Bah, en plus, moi, je suis pas spécialiste, j'ai découvert la licence avec l'épisode Wii, et je suis tombé dedans, effectivement, parce que tu as ce côté action-RPG extrêmement exigeant. On est vraiment dans les mouvements, les animations du personnage. Moi, je me retrouve beaucoup dans Dark Souls, dans une version un peu kawaii et fantaisiste de Dark Souls, mais tu as ce même rapport à l'avatar et au combat. C'est-à-dire que c'est un jeu qui gère l'énergie, la santé et l'énergie. Et tu peux pas faire n'importe quoi dans tes mouvements sous peine d'être vite essoufflé et tout ça. En plus, c'est un jeu où tu dois pister le bête, mais tu dois aussi te nourrir, puisque c'est ça qui alimente ta barre d'énergie.
Ah, avant chaque mission, etc. Enfin, on passe voilà, dans les restaurants.
Fouiller le moindre des environnements, là, partir de, pour trouver des matériaux, pour crafter, pour faire des meilleures armes, des meilleures armures, des meilleurs équipements de chasse, des bombes et tout ça, des pièges. Enfin, t'as toute une dimension stratégique qui naît avec cette chasse. Et t'as dit toi-même, ce qui est magnifique avec Monster Hunter, c'est cet instinct. C'est la viande, quoi. C'est, tu vas chercher de la viande. Et les monstres sont tellement de plus en plus badass, de plus en plus punitifs, de plus en plus imposants, que chaque victoire, c'est une victoire personnel, intime.
Ouais, mais le jeu joue vachement, enfin, pour les quelques missions que j'ai faites, sur le côté gratifiant. Dès qu'on réussit une mission, on retourne au bercail, et là, on est gratifié par les personnages, on récupère des choses. On sent que très vite, on part dans une collectionnite. D'ailleurs, on a des menus déroulants assez longs avec les inventaires, on sent, enfin. Ouais,
il y a une profondeur de jeu qui se mêle en plus avec le caractère chronophage. De l'expérience elle-même, c'est-à-dire que pour finir en moyenne un Monster Hunter, pour le finir vraiment bien, faut compter 100 heures. Voilà, un minimum.
Ah, ouais, c'est pas tant que ça.
Non, mais pour être bien. Après, tu commences vraiment à être dans une routine, machin, tout ça, mais vraiment pour toucher l'espèce de cœur, la viande, les tripes du jeu, faut compter quand même 100 heures, donc c'est un peu compliqué.
Mal. Oui, non, c'est bien.
Sauf si tu joues qu'à ça.
Oui.
Après, pour cet épisode-là, je trouve que il y a une feature qui est très très importante qu'ils ont implantée, c'est la verticalité. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tous les niveaux étaient linéaires. Et tu pouvais pas sauter.
Là, on tombe souvent, on tombe.
Bah là, les niveaux sont étagés sur un, deux, voire trois niveaux. Et surtout, avec la possibilité de sauter sur le dos des monstres. Et là, ça entraîne une sorte de QTE un peu maladroit. C'est pas du Dragon's Dogma, c'est dommage. Mais où tu peux mettre à terre le monstre plus facilement et tout ça. Du coup, ça rajoute une dimension tactique et stratégique encore plus forte. Parce que tu penses l'espace beaucoup plus qu'avant. Au-delà de ça, il y a le multijoueur qui est tellement mieux pensé, tellement plus accessible, vraiment convivial. Là, pour le coup, c'est pas Evolve, t'as pas besoin de communiquer beaucoup parce que c'est immédiat. T'as vraiment un truc qui est tout de suite, quoi. Tu rentres dans le jeu qui est assez génial. Et après, moi, je peux pas cacher une certaine déception par rapport à cet épisode-là dans le fait que on sent que c'est une saga qui vend des millions et qui sait qu'elle vend des millions et qu'elle n'a pas besoin de beaucoup changer de choses pour vendre des millions.
Alors c'est un des points aussi, c'est que alors moi je regarde les Monster Hunter et les Monster Hunter like d'une manière assez bizarre parce que les rares fois où j'essaye c'est un échec cuisant où je comprends pas ce que je fais, je comprends pas le but, il me manque quelque chose, je sais pas, il y a des
là on est plutôt bien pris par la main, je trouve, le début de l'aventure.
Oui, il y a un tutoriel qui est bien accompagné en avant.
Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Écoute, ça m'arrête.
Tu disais que tu avais du mal à.
Le truc, c'est que oui, tu parlais peut-être de l'interface qui est quand même assez.
Oui, non, et que du coup, je vois ces trucs et j'ai l'impression qu'on est. On est presque dans un exercice de style, de la contrainte, de la chasse aux monstres, et que finalement, d'un numéro à l'autre, les évolutions graphiques, quelques évolutions aux alentours, mais que le cœur du jeu reste exactement le même. Final Fantasy, c'est un nouvel univers, c'est des nouveaux personnages, c'est des nouvelles histoires.
Avec des réussites ou des échecs aussi.
Bien sûr, mais là on a l'impression qu'on est sur un jeu sous contrainte et qui est.
T'as un canon qui est intouchable.
Ouais.
Tu le sens, et ça c'est un peu dommage. Mais surtout, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils n'ont pas pensé à un seul moment à revoir leur ergonomie et leur interface, qui est vraiment
le gros point faible du jeu.
D'accord. Ils n'ont même pas changé les pictogrammes ni rien et tout ça. T'as vraiment ce côté stagnant qui est un peu dommage. Et en plus, les fans de Monster Hunter tiqueront quand même sur le fait que sur les 100 monstres proposés, les trois quarts sont des monstres qui sont récupérés et recyclés. Il y a vraiment, voilà. Mais quand bien même, moi j'en suis à 50 heures de jeu, je pense repartir pour une cinquantaine. Je trouve que le jeu est extrêmement séduisant. En plus, le scénario est un peu mieux mis en avant. T'as des séquences plus interactives où tu te fais carrément attaquer sur un bateau par
c'est
un ver géant.
Dès l'intro, c'est beaucoup plus spectaculaire.
C'est plus immersif. Moi, je trouve que c'est vraiment un excellent épisode et tant mieux s'il marche.
Allez, promis, j'essaierai.
Il y a une démo jouable, je crois. Hein,
tu scannes un flash code. Ouais.
Allez, juste, j'ai ressorti des vieilles minutes culturelles que j'avais reçues il y a quelques mois, et c'est celle de Seb22 qui me l'avait proposé à l'occasion des 15 ans de la Dreamcast, qui était sortie en 99, donc c'était fin 2014, les 15 ans de la Dreamcast.
Donc c'est de l'inédit, c'est une minute inédite.
Voilà, parce qu'on ne l'avait pas fait, celle sur la Dreamcast.
Je ne crois pas.
Non, non, on l'avait fait. En fait, il avait envoyé celle sur la PlayStation 1 à l'époque.
Oui.
Il avait envoyé deux, et voilà. Et donc, pourquoi, alors on commence, pourquoi le logo, le logo en spirale de la Dreamcast est-il bleu en Europe et orange ailleurs ?
Parce que c'était un logo qui existait déjà en Europe, le logo orange.
Exactement, c'était une société.
Oh là, mais je saurais pas dire qui, c'est ça le problème.
C'est le nom de la société, c'était Tivola, qui était une société allemande qui avait déjà développé, déposé le logo orange.
Aux US, elle était bleue aussi, il me semble.
Oui. Ouais. La Dreamcast et Sega, en tant que constructeurs, sont tombés financièrement pour plusieurs raisons. Citez-moi au moins deux raisons de la chute de la Sega et de la Dreamcast.
Campagne marketing trop importante, ils ont mis trop d'argent dans le marketing du lancement de la console, non, c'est pas ça. Enfin, ils étaient déjà dans le rouge, je crois, au lancement de la Dreamcast.
Alors après, c'est toujours subjectif, mais il a pas mis ses papas dans les raisons évoquées par... il y en a quand même une évidente.
La PS2 qui arrivait, qui était annoncée, qui était annoncée avec déjà ses specs techniques.
L'annonce précoce de la PS2.
Et je crois que les premières vraies annonces sérieuses sur la PS2 sont au moment de la sortie de la Dreamcast, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça coupe évidemment sous le pied.
Et après, alors, parmi les autres raisons, tu avais la mauvaise santé financière depuis le méga CD et la 32X
et
la Saturne. L'absence de la lecture DVD.
Ça fait partie de l'univers PS2 qui promettait déjà.
Le budget englouti par la production d'une saga. Shenmue.
Ça, et puis aussi par exemple, des gros éditeurs comme Electronic Arts qui dit moi non, je ne vais pas sur
Dreamcast. Et l'absence de Electronic Arts et l'absence de Squaresoft.
Pas de jeu de sport, et là déjà.
Pourquoi Electronic Arts n'a-t-il jamais développé de jeu sur Dreamcast?
C'est des deals avec PlayStation, mais je pense pas. Non,
et non. Après, s'être fait shipper Electronic Arts pendant l'ère Saturn, Sega a souhaité tout faire pour le récupérer. Et Electronic Arts n'était pas contre, mais les négociations ont commencé. Seulement, Electronic Arts voulait être le seul éditeur de jeux de sport sur la Dreamcast. Problème, Sega venait d'acheter Visual Concepts.
Ils avaient leur propre.
Le créateur des futurs NBA 2K pour 10 millions de dollars. ça paraît tellement rien aujourd'hui. Malgré une proposition d'exclusivité sauf pour les jeux Visual Concept et Electronic Arts a refusé. Citez trois jeux parmi les plus vendus sur Dreamcast.
Virtua Fighter 3.
C'est comment t'as fait pour citer un qui est pas dans le
pourtant
attends, c'est Soul Calibur.
Shenmue.
Deux, et il m'en faut un troisième
sur Dreamcast. House of the Dead.
Nope.
Jet Set.
Oui, exactement. Pas du tout, j'ai confondu, c'était Crazy Taxi. Mais bon, Crazy Taxi, Sonic Adventure, Soul Calibur, Shenmue, Resident Evil, Code Veronica.
Mais oui, il était sorti sur la Dreamcast en premier. C'est
vrai. NBA 2K 1 et. NBA 2K et NBA 2K1. Voilà. C'est ça, je crois. Combien de Dreamcast furent vendus en tout?
10 millions, c'est difficile ça.
8,2 millions, soit moins que la Saturne à 8,8.
Moins que la Saturne.
Et oui. Et quand sa production officielle fut-elle stoppée?
2003.
Le 30 mars 2001. Et oui, ça fait mal, la sortie de la PS2.
C'est vrai qu'il y a des jeux qui sortaient après sans que... Des années difficiles.
Allez, deux dernières questions. Comment s'appelle la carte mémoire de la Dreamcast et quelle est sa particularité?
Visual Memory.
Visual Memory System, exactement.
Mais comment fais-tu?
Et t'avais un écran intégré, mais c'était
exactement,
classe.
Exactement, elle dispose d'un écran et d'une manette et de boutons pour jouer à des
mini-jeux. Du coup, ça faisait bizarre que t'avais une manette sans... S'il n'y avait pas la carte mémoire, ça faisait un vide. Il y avait un truc un peu vide, bizarre.
Et question piège, quand est sortie la VMS, donc la Visual Memory System, au Japon? Et bien, c'était le 30 juillet 98, soit 4 mois avant la sortie de la console.
Et oui,
en effet,
pour Godzilla,
une opération commerciale avait... trop fort.
Ah non, mais je vous rappelle,
une opération commerciale y avait eu lieu pour promouvoir la future Dreamcast via le film, l'excellent film Godzilla.
Oui. Ah oui, quel grand film. Ils ont réalisé juste dès le début, ça s'annonçait mal. En fait.
Allez, on va se dépêcher parce qu'on est on n'est pas en avance. On va aller faire la course, Ah oui, mais t'avais besoin de temps toi pour ton dernier.
Non,
mais
c'est pas grave.
On va venir partir Monster Hunter.
20 secondes, c'est pas grave.
C'est juste parce qu'on on va parler rapidement du jeu de course à pied Harold.
This is the big competition to decide which guardian angels enter Archangel Academy. So pay close attention, young ones. These are the race rules. It's an obstacle course where you must protect your human runner by manipulating the environment. Not all runners are equal. Some are maybe slower, or shorter, or dumber. Or all of the above. Like, Harold.
Donc, allez, le pitch rapidement en trois lignes. Il y a une école des anges. Il y a un concours pour savoir qui va intégrer la grande école des archanges. C'est l'école des anges gardiens. Et donc, pour déterminer qui va intégrer l'université des archanges, il y a une course entre humains. Et puis, les anges sont les anges gardiens, donc sont les protecteurs des humains. Doivent déblayer le passage, doivent s'occuper des obstacles pour que le petit personnage qui court tout seul arrive jusqu'au bout et de préférence sur le podium et sachant que la seule chose qu'on puisse faire c'est en tout cas en interaction directe avec le personnage c'est sauter et lui donner des petits coups de boost par des éclairs
bouger
dans les
plateformes aussi on peut
après
bouger les
et après on doit on a toutes les interactions avec les plateformes. C'est un petit bijou à ce Harold, c'est la création, c'est Moon Spider, studio de Floride, studio dont c'est le premier jeu qui est fait par des vétérans. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est des vétérans de l'industrie qui veulent surtout faire des jeux bien de très haut niveau et très fun. Et là, ils ont réussi. On est directement dans la lignée des Rayman,
ouais,
notamment
ouais.
par l'aspect dessin animé et l'aspect course pour le coup. Et on se rapproche presque plus des deux Rayman, Fiesta Run et Jungle Run. Dans le sens, c'est l'inverse. Sur mobile, parce qu'il y avait ce côté où Rayman courait tout seul.
Voilà, le perso court tout seul, exactement. Et on appuie sur le bouton d'action pour le faire sauter ou s'agripper aux branches, etc. Et...
Réaction en quelques secondes. Allez, Yann.
Ah, moi, j'ai déjà beaucoup parlé.
Ouais,
en plus,
ton temps de parole est épuisé. Voilà.
En plus, je n'ai fait qu'un niveau, mais suffisamment pour me dire que c'est effectivement le concept est non seulement extrêmement maîtrisé, c'est-à-dire que moi, ça m'a... J'aime bien ces expériences à la Beat Trip Runner automatique parce que le niveau de difficulté est tellement poussé qu'au bout d'un moment, tu te dédoubles toi-même. C'est-à-dire que tu vois ton propre cerveau avoir ses réflexes et que tu n'es plus du tout dans la maîtrise de ta conscience. Et je trouve ça super.
Qu'est-ce que ton cerveau peut t'énerver
à ce
moment-là.
C'est là où tu te rends compte que, ouais, objectivement, tu es bête.
Et Patrick hein.
Moi c'est le visuel qui m'a tout de suite frappé sur le je trouve que le rendu visuel est super bien fichu et je sais pas j'ai pensé comme ça plein évidemment Rayman on pense tout de suite au Rayman Legend au dernier notamment j'ai sur les animations du perso moi j'ai pensé aux réalisations du Don Bluth vous voyez c'était le fameux créateur des Dragon's Lair Space Ace et je sais pas j'ai pensé à ça dans l'animation du perso très détaillé très un peu loufoque et ça m'a vraiment fait penser à ça et sinon moi j'ai bien aimé le jeu avec les plateformes où on va, comme tu dis, le cerveau, enfin les deux hémisphères du cerveau sont obligés de bosser chacun de leur côté et très vite ils sont pas d'accord donc c'est pas mal parce qu'en fait il se passe plein de choses à l'écran en même temps et on est obligé de
là,
gérer
c'est
les
là,
différents
c'est là qu'on atteint, on atteint la difficulté parce que c'est quand
et
même ultra punitif,
ça va très,
c'est
vite,
très difficile parce que les plateformes en fait il faut non seulement parce que en plus notre Harold il court moins vite que les autres donc il faut tendre des pièges aux adversaires pour les faire tomber, réussir à utiliser, à récupérer des boosts pour que Harold puisse
accéder à des plateformes
accéder et contrôler parce qu'en fait grosso modo c'est des énigmes à chaque fois c'est des petites énigmes chaque passage d'obstacle
avec
est une petite énigme sauf que avec le pad gauche parce que alors c'est sur PC pour l'instant uniquement sur PC mais ça se joue avec le pad inutile d'essayer d'espérer y jouer avec le clavier et donc en fait on doit gérer entre les deux gâchettes supérieures les deux gâchettes inférieures qui se servent le A pour sauter contrôler directement le personnage, le pad de gauche pour bouger les plateformes. Et du coup, en fait, c'est des énigmes, sauf qu'on a deux secondes et demie pour les réaliser. C'est-à-dire qu'on sait, et c'est là où tu dis, effectivement, on voit notre cerveau, c'est-à-dire qu'on, si le temps se ralentissait, eh ben, on pourrait tout faire, mais nickel, parce qu'on sait exactement quoi faire. Le problème, c'est le faire dans le timing, dans le temps, bouger une plateforme, changer, passer de l'autre plateforme, la bouger dans l'autre sens, la remettre parce qu'il faut faire tomber un adversaire, et ça devient un truc... très die and retry, parce qu'il faut vraiment que chaque énigme soit maîtrisée. Alors, en tout cas, pour arriver à la première place d'une course, chose que je n'ai jamais réussi pour l'instant. Mais je débloque les courses petit à petit, parce qu'il suffit d'être sur le podium, donc à la troisième place pour débloquer la course suivante. Et bah, arriver à la troisième place, c'est pas facile du tout. En tout cas, c'est une très très belle réalisation de Moon Spider, et on va avoir un petit peu de temps rapidement. Désolé. Pour parler, ça vient de sortir sur la Xbox One, The Escapist. The Escapist, qui était en version
Early Access
sur Steam depuis quelques temps, et qui débarque sur Xbox One.
Sur PC, sur Steam et sur Xbox One en version...
Et voilà, et t'es en prison, Patrick.
Ben ouais, je vais vous vendre du rêve, hein, parce que moi, ça fait une semaine que je suis... Enfin, que tous les soirs, en rentrant chez moi, je regagne ma cellule et que je suis en prison. Alors, The Escapist, pourquoi je me suis intéressé à ce titre? Bah déjà, il y a le nom de l'éditeur, hein, Team 17, Team 17, comme je pouvais l'appeler dans les années 90. Worms, mais pas seulement, c'est aussi pour les gens qui ont eu un Amiga, c'est Alien Breed, quand même, qui était un jeu mythique, Body Blows, enfin des jeux que tous les Amigaïstes ont encore en tête. Alors eux, c'est l'éditeur, mais c'est, en fait, eux publient un jeu d'un tout petit studio qui s'appelle Mold Tooth Studios, c'est leur nom, et voilà, donc bon. Plutôt un a priori intéressé, je me penche sur le jeu, et là c'est la surprise. Là, j'ai vraiment plongé dans cette expérience, et pour moi c'est une vraie expérience de gameplay. C'est vraiment intéressant parce que on se retrouve dans le monde carcéral que, bon, je ne connais pas personnellement, mais comme tout le monde, j'ai vu des films, et j'ai surtout joué à des jeux aussi, parce que le monde carcéral, il a ses particularités. Il a intéressé depuis des années le monde du jeu vidéo, parce qu'il a à la fois cette particularité de mettre en scène un monde ouvert, et qui finalement, bah, c'est paradoxal, parce que c'est un monde ouvert fermé par définition. Alors il y a eu plusieurs jeux intéressants. Moi, je me rappelle, un des premiers que j'avais joué comme ça, on était dans une prison, c'était Eden Blues. C'était un jeu français à l'époque, qui était plutôt sympa, mais qui était encore un jeu d'action, on devait juste s'échapper. Ça a commencé à évoluer, je me rappelle, avec The Great Escape d'Océan en 86. C'était un jeu où là, ça devenait vraiment intéressant, parce qu'on était un prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale dans un camp, et on commençait à être dans un monde cohérent, un petit univers, un microcosme, avec son timing, ses habitudes, sa routine qu'on devait suivre. Et il y avait une des particularités, c'est que donc on devait s'échapper à tout prix. Et je me rappelle très bien d'une astuce qui n'a pas été reprise ici, mais qui aurait pu être intéressante, c'est que si on ne touchait pas à sa manette, si on laissait faire, c'était un jeu en 3D isométrique, qui était un bon moyen à l'époque de représenter visuellement des choses sans que ce soit trop compliqué. Si on ne touchait pas à la manette, notre personnage suivait sa journée habituelle, c'est-à-dire qu'il faisait sa routine, ses tâches qu'il devait faire, et on reprenait la manette, hop, on pouvait s'écarter un petit peu du chemin, et c'était intéressant, il fallait trouver un moyen de s'en aller de ce camp. Et ensuite, je me rappelle d'un Prisoner of War de Codemasters en 2002, qui a maintenant 12-13 ans, qui, lui, avait plus des petites tendances Shenmue-esques. Mais pareil, on avait toujours cette idée d'être un prisonnier dans un camp qui se retrouve là-dedans et qui doit suivre une routine, qui doit être présent aux appels, qui doit faire bonne figure et qui, en sous-marin, prépare son évasion. Donc voilà, c'est pas tout nouveau. Il y a déjà eu des précédents plutôt intéressants. Moi, surtout The Great Escape sur Amstrad, que j'avais retourné dans tous les sens, que j'ai relancé il n'y a pas longtemps, mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais il y a eu des précédents. Et alors, ce jeu-là, donc The Escapist, il repose vraiment sur ce principe, et il est vraiment étonnant. La prise en main est étonnante parce que on se retrouve soi-même dans la peau d'un personnage qui est comme ça balancé du jour au lendemain dans une prison. C'est-à-dire qu'on commence le jeu dans sa prison, enfin pour tout vous dire. Donc on a une vue aérienne très pixel art, un peu à la Zelda visuellement. Ça peut évoquer un Zelda 2D, plutôt mignon, mais c'est trompeur parce que c'est un jeu sans pitié, impitoyable. Et ça, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on commence le jeu et on vit une évasion parfaite. C'est-à-dire que tout se passe bien, on monte sur une table, on ouvre un truc, le ventilateur, on se sauve. C'est qu'un rêve, évidemment, on se réveille. Et là, la dure réalité nous rattrape très très vite. Et là, on est lâché dans cet univers, et c'est là où je dis qu'on vraiment se retrouve dans la condition de ce personnage qui est dans un univers qui lui est complètement hostile de A à Z, c'est-à-dire qu'on est lâché là-dedans sans vraie explication. On peut vaguement acheter quelques renseignements, mais ça va pas très loin. Il faut déjà avant, et c'est là que j'ai trouvé que c'était très fin, c'est-à-dire qu'avant de partir sur des idées d'évasion, on se dit je vais essayer de survivre quelques jours, parce que ça tient de la survie, c'est que vraiment très vite on se rend compte que tout est hostile, des matons dans la prison qui nous surveillent, aux co-détenus qui sont, c'est pas sympathique, hein, c'est que c'est vraiment la loi
c'est
du talion.
C'est un peu tendance Oz, la série télé.
Il faut vraiment survivre, et très vite on se rend compte. Alors ce qui est génial, c'est qu'on commence en disant je vais déjà apprendre les codes. Alors le début est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut, ça prend quelques heures de jeu pour comprendre. On est vraiment au début, pas dans un die and retry, mais dans de l'expérimentation qui est très vite, on se fait très vite taper sur les doigts, et il faut apprendre. Et en fait, le but dans les premières heures, c'est de comprendre comment fonctionne la première prison dans laquelle on est. C'est les rythmes, les choses qu'on doit faire. C'est qu'on a des travaux effectués. Moi, j'ai commencé à faire la machine à laver, à aller. Donc, c'est du gameplay. C'est-à-dire qu'on a c'est une espèce de bac à sable finalement. On a plusieurs activités comme ça. Donc, on a le travail qu'on doit faire avec un petit taux à faire tous les jours. Sinon, ça se passe mal. Mais c'est plus fin que ça. Il y a des choses vraiment intéressantes. Donc, il y a ces moments libres où on va pouvoir un peu explorer l'univers, et on a aussi donc on a un côté RPG qui est là, c'est-à-dire que on doit gérer plusieurs choses, plusieurs paramètres, on a ces travaux à faire, on doit aussi lire, aller sur internet pour faire avancer le psyché de son personnage et apprendre à pouvoir justement optimiser tout ce côté RPG. On doit crafter des objets, c'est-à-dire qu'on accumule pas mal d'objets, et voilà. Alors, ce qui est vraiment très, très fort.
Ça me fait beaucoup penser, je sais pas si tu as joué, c'est à Always Sometime Monster qui était sorti l'année dernière.
Non, je l'ai loupé celui-là. C'est Level 5, je crois.
C'était un jeu soutenu par Devolver aussi, il me semble.
Et, je crois, ouais.
Et pareil, qui fonctionnait déjà sur le même système graphique, mais aussi ce côté tous les jours. Essayer de se débrouiller pour survivre, mais la seule façon c'était d'être un misanthrope, vraiment de faire les pires crasses au monde. J'ai l'impression que The Escapist rejoint ça.
Il y a un peu de ça, parce que le rapport avec les co-détenus, c'est pas des copains, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans du deal avec, il y en a un qui nous demande un service, on va le faire. Enfin, voilà, tout est assez hostile, et il faut vraiment apprendre à. Alors, il y a toute une partie crafting qui est très importante, c'est-à-dire qu'en gros, la journée, on essaie de récupérer des objets, de les stocker chez soi, et c'est là qu'on entre dans une des grandes forces du jeu, et moi, en y jouant, je pensais beaucoup à L'Évader d'Alcatraz, le fameux film avec Clint Eastwood de Don Siegel, où vraiment on a les mêmes frissons que le personnage du film, qui était une histoire vraie d'ailleurs sur Alcatraz, où comme lui on a vraiment des scènes, je pense vraiment que ce film a été un point de départ du jeu, parce qu'on ressent vraiment les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on récupère des objets, mais il faut faire très attention à la façon dont on les stocke, dont on les cache, parce que tous les matins et tous les soirs il y a l'appel général où tout le monde doit être dans la cour, et là d'un seul coup on dit la pièce de un tel et un tel va être fouillée, donc là si on a laissé nos choses un peu trop traîner, c'est fini, c'est confisqué. En fait on passe pas mal de temps à se faire tabasser, à se faire confisquer nos objets, donc on apprend, finalement on passe son temps à apprendre, à faire toujours très attention, et on est vraiment sur le fil, toujours à aller fouiller dans la cabine d'un voisin en faisant attention à ce que la ronde nous tombe pas dessus, et c'est vraiment intéressant. Puis il y a ces moments où comme Clint Eastwood dans le film, on se retrouve en fin de journée, on est dans sa cellule, on récupère les objets qu'on a, puis on essaie maladroitement de les ajuster entre eux pour essayer de faire une arme, et là on nous dit t'es pas encore assez intelligent, il faut que t'ailles augmenter ton level d'intelligence.
D'accord. Du RPG d'évasion.
Mais et ça marche vraiment bien, donc voilà, il faut optimiser ses armes. Et puis ce qui est dingue, c'est qu'avec quelques pixels, au début on est un peu perdu, il faut le temps d'habiller. Et puis finalement on se rend compte que les co-détenus, les Leroy, les Mike, ils ont chacun leur personnalité, et que finalement on apprend à les connaître. Et vraiment, c'est une vraie expérience très intéressante, je trouve.
The Escapist sur PC, Xbox One et PS4, non, pas de PS4 pour l'instant.
Je crois pas, non. PC, Xbox One.
PC, Xbox One.
7€, je crois.
Écoute, tu l'as très, très bien vendu. Vraiment. Et c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Et très rapidement, bien sûr, ça va sans dire, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Eh bien, j'ai revu L'Évader d'Alcatraz, parce qu'encore une fois, en le revoyant.
Je vais vous reparler d'Escapist.
Il y a beaucoup de tips pour le jeu. Et j'ai revu aussi Midnight Express, donc ne me posez pas de questions. Mais voilà, je suis dans le truc. Non, mais ça m'a servi pour le jeu. En plus, vraiment, sincèrement, il y a vraiment des choses dans le film Don Siegel qui sont reprises dans le jeu quasiment, littéralement.
Yann.
Moi, j'ai vu un très très beau film qui s'appelle It Follows, qui est le deuxième film de David Robert Mitchell, qui est un. Bon, il faut que j'aille vite. Donc, un film qui mélange à la fois les romances teen et le film d'horreur, mais dans la mouvance de Carpenter et surtout, enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Turner, Féline notamment. Je pense que c'est un grand film qui apporte énormément de choses à la théorie du genre et tout ça, du genre de l'horreur et de l'espèce de pulsion qu'on peut avoir à regarder dans l'horreur.
Tourneur, c'est le lauréat de Gérard May, hein. It Follows.
Oui, tout à fait.
C'est plus suggéré que...
On est dans ça et avec des nappes au synthé à la Carpenter, vraiment.
Tourneur plus Carpenter, moi je signe.
C'est vraiment magnifique. Il faut absolument voir ça.
Et moi, pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps à fêter les 10 ans de YouTube, dont le nom de domaine a été déposé le 14 février 2005. Donc ça fait 10 ans, souvenez-vous. Et donc j'ai écrit 3 pages dans Libération. Ouais, je me profite de... Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire une auto-promo là-dedans, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas fait grand-chose d'autre. Voilà, et je continue à lire La Horde du Contrevent qui est vraiment super bien. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.